Alors, des trois textes que nous lirons ce matin, les textes proposés par la liste de lecture des assemblées chrétiennes en France, enfin, des communautés chrétiennes que l'on trouve dans un petit livret qu'on appelle la Bible en 6 ans. Il propose donc tous les dimanches une série de trois textes. Nous en lirons deux parmi ces trois. Et il y a plusieurs façons de lire la Bible, mais celle qui est en usage dans l'Église du Christ, c'est de s'approcher de ce texte, sachant qu'il a été donné par Dieu, inspiré du Saint-Esprit, et qu'il est donc écrit par différents hommes, mais inspiré de Dieu. Donc, c'est avec à la fois respect, puis aussi l'envie de demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit, parce que la sagesse humaine pourrait se perdre facilement. Même ce matin, je pourrais me perdre dans mes explications. C'est pourquoi nous allons nous en remettre à lui en priant pour cette méditation. Père Céleste, ta parole est devant nos yeux. Tu as, avec beaucoup de bonté et de patience, révéler tes voies, tes conseils, tes lois, tes promesses, tout cela tu les as communiqués par ton esprit à des hommes et qui les ont rédigés. Et voilà que nous avons entre les mains ce dépôt et nous te prions pour que ce matin il nous soit tous profitable et respectueux de ce que tu as voulu dire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, le premier texte sera tiré de l'Ancien Testament, un prophète, le prophète Ésaïe, qui a vécu en l'an 700 avant Jésus-Christ. C'était des temps difficiles et il était chargé de rappeler à son peuple comment Dieu avait agi dans le passé et comment il agira aussi à l'avenir. Ce petit texte se trouve au chapitre 43 du livre d'Ésaïe et au verset 16. Je n'ai pas anticipé, donc il ne va pas s'afficher là, à moins que les opérateurs soient particulièrement rapides et y arrivent, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Sinon, vous ressortez les bonnes Bibles. Alors, c'est un truc en papier là, que vous avez, qu'on faisait au siècle dernier. Et vous pouvez donc tourner les pages pour vous retrouver à Ésaïe 43, verset 16. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin, dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis les eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé. Ce peuple publiera mes louanges. Voilà ce premier texte, et le second se trouve dans le Nouveau Testament, c'est un texte de Paul, l'apôtre, qui écrit à une église qui se situe dans la ville de Philippe. Donc, c'est une lettre de Paul aux Philippiens. Et il y raconte un petit peu sa vie. Et il va conclure avec une certaine façon qui va nous intéresser ce matin, Philippiens chapitre 3, versets 8 à 14. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde donc ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà la parole de Dieu dans ces deux textes, Ésaïe et Paul. Pardon, je cherche un mouchoir. Je vais arranger ça. Alors, vous avez remarqué un point commun entre ces deux textes, quelque chose qui a été un peu surprenant pour moi. Ça se voit bien dans le passage d'Ésaïe, au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est un commandement assez inhabituel dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et Paul qui dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours, je dirige mes yeux vers l'avant, devant moi, ce qui est à atteindre dans l'image de la course. Donc cela m'a amené à réfléchir ce que ces deux textes voulaient un petit peu souligner à travers, comment on pourrait dire, notre façon de voir ce qu'il y a derrière nous, notre passé de notre propre vie, ou alors le passé beaucoup plus lointain, l'histoire. Et puis ce qu'il y a devant nous, notre avenir, les choses que l'on attend. Donc, et essayer de comprendre pourquoi Dieu dit à son peuple, non, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien, mais voici, je vais faire une chose nouvelle, ou alors, oubliant ce qui est en arrière, ce qui est passé, je me tourne vers l'avant, vers l'avenir. Voilà. Alors, on va donc étudier notre relation au passé et notre relation à l'avenir, et voir comment vivre ça dans sa vie de tous les jours, dans son présent quotidien. Alors, on va commencer par le passé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur notre façon de vivre notre passé ? Vous le vivez comment, vous, votre passé ? Quelle relation vous avez ? Est-ce que, par exemple, vous avez une boîte à chaussures chez vous avec des photos ? Ou est-ce que vous avez des albums photos ? Est-ce que quelqu'un parmi vous fait la généalogie de sa famille ? Ou est-ce que dans votre étude ou dans vos réflexions dans votre foi, dans votre vie de foi, vous approfondissez l'histoire du salut qui a commencé donc avec Adam et Ève, qui s'est poursuivi avec Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, tout ça. Quelle est votre relation ? Et surtout, quel sentiment vous avez par rapport à cette relation ? Vous vivez ça bien ? Vous êtes un nostalgique ou vous trouvez ça encombrant ? On va essayer de voir plusieurs façons d'aborder le passé, là où Dieu nous dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien. » Alors, on peut, par rapport à notre passé, avoir une attitude de regret. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que c'est moins présent que pour des vieux comme moi, et puis ceux qui sont au-dessus de moi, plus âgés. On pense un petit peu plus à notre passé, je crois. Et on peut être tenté d'avoir du regret. Ah si, là j'ai pris une décision et ce n'était peut-être pas une bonne. Mais si j'avais pris une autre décision, peut-être les choses auraient été bien différentes, etc. Une sorte de passé regretté. C'est un petit peu comme la femme de Lot. Elle est amenée par Dieu dans une nouvelle carrière où elle doit courir pour sauver sa vie avec son mari et ses filles. Et elle regarde en arrière. Donc ça, c'est une façon de regarder le passé avec regret. Et puis, il y a une façon de voir le passé, un passé glorifié, un passé glorieux. Alors, là, c'est plus dans l'histoire du monde en général ou l'histoire de France en particulier, pour rester près de chez nous. Nous avons pour toutes les nations dans le monde, pour tous les peuples, pour toutes les civilisations, nous avons des récits fondateurs. C'est-à-dire que nous avons un certain, on en parle aujourd'hui, vous avez dû entendre ici et là, par exemple, dans la Bible, l'histoire d'Abraham, d'Isaac, Jacob, ensuite les 12 tribus, Moïse, l'installation dans le pays promis, David, Salomon, tout ça c'est le récit fondateur. C'est pas un mythe fondateur, c'est une explication, c'est une révélation que Dieu donne à son peuple, qui est encore le peuple aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église, c'est la même, qui nous montre comment Dieu, dans le temps, dans le passé, a conduit son peuple. Et ce passé glorifié, ce passé saint, on pourrait dire, pas le passé simple, mais le passé sanctifié, on pourrait en faire presque une idole, dans le sens où on se rattache tellement au passé qu'on se dit, l'idéal, ça aurait été d'être là à ce moment-là pour vraiment vivre ces moments fondateurs. Une sorte d'adoration placée. Et puis, il y a d'autres façons de voir le passé, je les mentionne comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'hédonisme, c'est le passé qui n'a aucune importance. D'ailleurs, le futur non plus n'a aucune importance, donc il n'y a que le présent qui compte. C'est l'hédonisme, réjouissons-nous aujourd'hui. Alors, dans ce texte, je reviens au texte d'Ésaïe rapidement, il dit au verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, qui mit en campagne des chars, des chevaux, et ses chevaux se trouvent couchés, anéanti, éteint. » Ce récit des versets 16 et 17, c'est le récit de la sortie d'Égypte, avec la traversée de la mer et la mer qui se referme sur les poursuivants du peuple. Donc, comment ça se fait que Dieu va dire au verset 18 « Ne pensez plus aux événements passés, oubliez ce qui était en arrière », alors que deux versets avant, il vient de rappeler ce qui s'est passé. Et il va dire ensuite, parler du futur. Je crois que la façon de vivre notre passé, c'est de le vivre en se disant « Qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là ? Comment Dieu a conduit les choses ?» Autrement dit, de mettre Dieu dans l'équation pour reconnaître que c'est lui qui conduit l'histoire du monde et que c'est lui qui conduit nos vies. Je reprends le coup de la boîte de chaussures avec vos photos. Si vous la ressortez et que vous dites « Ah voilà, là c'était l'anniversaire d'un tel, là c'était les vacances ici, etc. » Ça c'est une première lecture, mais certains photographes prétendent que cette façon de consulter ces photos, c'est comme visiter un cimetière. Ça peut paraître surprenant comme idée et assez négative. Mais en fait, on est en train de regarder des choses qui sont tellement passées qu'elles ne reviendront plus, qu'on n'aura jamais l'âge qu'on avait sur les photos, on n'aura jamais la joie qu'on avait eue à ce moment-là, peut-être d'autres joies, on ne sait pas, mais en tout cas, plus celle-là. Tout ce qu'on regarde, c'est passé, c'est enterré, c'est mort. Et si nous, dans notre foi vivante avec Jésus-Christ, nous regardons ces photos en disant, tiens, ce jour-là, Dieu m'a donné de vivre cet instant-là. Tiens, Dieu, à ce moment-là, avait donné à ce petit groupe qu'on voit sur la photo de la joie. Ou si c'est une photo moins gaie, ah bah oui, hein, à ce moment-là, Dieu nous avait fait passer par cette épreuve. Autrement dit, ramener Dieu au centre de l'histoire. Et c'est ce que Ésaïe est en train de faire. Il dit, vous connaissez votre passé. Je vous l'ai expliqué, raconté, vous vous l'êtes transmis. Eh bien, moi, je suis toujours là. Ce que j'ai fait dans le passé, vous allez être témoin de quelque chose qui va se produire dans l'avenir et qui va être encore plus grand. C'est presque une comparaison, sa façon de dire, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien. Donc, si on a une relation au passé dans le sens de regret en se disant quand même, si on avait été là à l'époque du roi Saint-Louis, ça aurait été quand même beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu perdu dans du n'importe quoi. Ou alors, si j'avais été là en Galilée à suivre Jésus, ça aurait été quand même bien mieux. Mais là, Dieu nous dit, pensez pas à ces choses-là comme avec regret. Regardez ce qui va se passer. Eh bien, Paul fait la même chose. Dans le texte aux Philippiens, il dit, écoutez, moi je suis né hébreu, fils de pharisien, respectueux de la loi, j'ai un passé glorieux, j'ai un curriculum vitae qui me place dans une situation tout à fait particulière, eh bien tout ça, pouf, ça ne compte pas dans la poubelle. Il ne le met pas dans la balance, il ne le renie pas, il l'explique qu'il a bien passé par toutes ces étapes, qu'il a bien bénéficié de tout ça, mais qu'est-ce qui l'intéresse ? Il va se tourner vers quelque chose qui est devant lui, qui est encore plus grand. Alors, parlons du futur maintenant. Comment on peut vivre le futur ? Alors, aujourd'hui, il y a un mouvement dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le mouvement des collapsologues. Ça sonne bien. La collapsologie. Eh bien, ce sont des gens qui ont pensé à l'avenir et qui se sont dit, bon, si on continue comme on continue, on va s'anéantir. Plus rien ne va fonctionner. Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus de nourriture, la santé, ça n'ira plus, etc. Et ce sont des scientifiques, ce sont des gens raisonnables qui font des calculs très précis. Et quand on les écoute, on se dit, ouh là là, ça a l'air bien sérieux cette affaire. Et mal parti, surtout. J'ai connu un ami il y a quelques années que j'avais un peu perdu de vue. Un jour, je l'appelle au téléphone et il avait une voix blanche. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Marc ? Tu as un souci ? Il me dit, ben écoute, je viens de me rendre compte que ben, grâce à des lectures de monsieur un tel et un tel, je crois que le leader, c'est un monsieur suisse, que j'ai oublié le nom, je crois que c'est monsieur Jorion, mais j'en suis pas sûr. Il avait lu tous ces textes et il était détruit parce qu'il a dit, mais voilà, c'est la fin du monde. Donc, c'est une première façon de voir le futur. En fait, il n'y a pas d'avenir. Ça, c'est la collapse. Ça a toujours été, pardon, c'est la collapsologie, c'est l'équivalent de l'apocalypse, enfin de l'apocalypse au sens courant de le dire, c'est-à-dire la fin du monde. Il y a une autre façon de vivre l'avenir ou de se projeter dans l'avenir en se disant, bon, mon passé n'a pas été terrible, mais je vais essayer de faire mieux. Un peu comme Joël a essayé d'expliquer ce matin. Autrement dit, de voir l'avenir comme l'occasion de racheter le passé ou d'imaginer l'avenir comme étant un progrès dans l'histoire. L'homme va aller de mieux en mieux. Ça s'éloigne assez de la collapsologie, c'est positif, c'est plein de nouvelles perspectives. Vous avez peut-être appris qu'il y a des projets très sérieux, les fusées sont presque prêtes, les cosmonautes s'entraînent pour cela et nous allons habiter sur Mars. On va ouvrir une colonie martienne. Et ça, c'est une projection dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle des Robinsonades. C'est un style de roman qui refait démarrer l'humanité à chaque fois. Et Robinsonades, parce que ça vient de Robinson Crusoe, qui a été un des premiers romans, qui expliquait comment à l'avenir, on va reconstruire les choses à partir de rien ou presque. Moi, j'aime beaucoup Robinson Crusoe Pas tellement parce que c'est une nouvelle humanité, mais parce qu'il bricole avec trois fois rien et il s'en sort, quoi. Il trouve 4-5 morceaux, grains de blé dans sa poche et puis hop, il va faire pousser du blé. Ça, c'est formidable. Il a sauvé une scie dans le bateau avant qu'il coule et avec cette scie, il va faire toute sa maison, etc. Ça, c'est un des succès des Robinsonades. C'est que c'est une belle aventure. L'avenir va vers le progrès. On va grandir de nouveau, puis on va faire... Voilà. Et aujourd'hui, c'est sérieux. Hein, on est parti pour Mars. Là, normalement, au mois de mai, je crois, il y a la fusée qui est prévue pour ça, qui va faire un test, voilà, décoller. Voilà. L'avenir vu comme l'histoire en progrès. Et dans le texte d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il y a de marqué dans l'avenir ? Ne connaîtrez-vous pas ce que je vais faire, cette chose nouvelle ? Je mettrai un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, des chacals, des autruches, parce que j'ai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé. Et ce peuple-là publiera ses louanges. Et Paul va le dire d'une autre façon, mais d'une manière plus sportive, on va dire. Je n'ai pas remporté le prix, je n'ai pas déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir Jésus-Christ. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je vais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il est en train d'expliquer que pour lui, l'avenir, c'est de tomber dans les bras de Jésus-Christ, en quelque sorte. C'est de saisir Jésus-Christ, c'est de vivre sa communion vraie et entière avec lui. Aujourd'hui, nous marchons par la foi. C'est bien pour ça qu'on est tourné vers l'avenir, vers les promesses de Dieu. Et voilà que Paul l'explique d'une manière très saisissante. Il dit, moi, je cours. Je cours parce que je sais que la fin de la course, ça va être le royaume de Dieu. Ça va être la communion de tous les frères et sœurs autour de Dieu lui-même dans la vraie vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une ombre. En tout cas, ce n'est pas encore ce que Dieu a promis. Quand Ésaïe explique qu'il va refleurir le désert, il n'est pas dans un projet martien. Hein. Le désert, c'est la destruction, c'est la solitude, c'est la sécheresse et la soif, c'est le manque de chemin et c'est le résultat de l'exil du Jardin d'Éden. Et donc, Ésaïe explique, je vais changer tout cela et le ramener dans un état de salut. Donc voilà, on est en route vers le royaume. On est amené à vivre ce présent bien, en étant bien présent à ce que nous vivons, mais en n'oubliant jamais que ce soit dans le passé ou dans le futur, on est dans la main de Dieu. Il y a dans une des pensées de Pascal, quelque chose d'assez saisissant. Je vous lis la pensée de Pascal numéro 80, il l'a rédigée en 1658. Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque pas au présent. Et il a cette expression, nous errons dans des temps qui ne sont point les nôtres. Et nous ne pensons pas au seul temps qui nous appartient, c'est-à-dire aujourd'hui, le présent. Il y a donc dans cette relation au passé et au futur, quelque chose qui doit nous rendre dynamiques dans l'envie de vivre ce qui est aujourd'hui. Je vous renvoie à ce que Jésus disait au chapitre 6 de Matthieu. Vous voyez un petit peu ce passage sur les soucis, les inquiétudes, le lendemain, avec cette expression qui est devenue très célèbre. Chaque jour suffit sa peine. Qui d'entre vous peut, par ses soucis, rallonger que d'une coudée? Et qu'est-ce qui va faire que nous, on va pouvoir entrer dans une relation si vivante avec Jésus-Christ que l'on va se dire, quoi qu'il arrive, ce qu'il y a devant va être encore plus glorieux que ce qu'il y a derrière. Donc, est-ce qu'il faut oublier le passé, comme Ésaïe semble le dire? Est-ce qu'il faut oublier ce qui est en arrière, comme Paul semble le dire? Il faut se concentrer sur quelque chose qui a été réalisé par Jésus-Christ il y a 2000 ans, c'est-à-dire le passé, une œuvre fondatrice, fondamentale, que Jésus va expliquer de la manière suivante. Tout à la fin de sa vie terrestre, il rassemble ses disciples, il prépare le dernier repas que vous allez, je crois, célébrer la semaine prochaine. En tout cas, on va célébrer Pâques, et ce week-end de Pâques va être l'occasion de se souvenir de ces paroles de Jésus à ses disciples. Il rassemble le repas et il dit quelque chose de saisissant. Il dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit là. » Il va le dire deux fois dans Luc, et il va dire au moins une fois dans Matthieu. On va le lire dans Luc 22. On va prendre le temps de lire ces paroles qui doivent nourrir notre quotidien. Parce que j'ai peur que le présent et l'avenir, vécus de façon laïque, c'est-à-dire sans placer Jésus-Christ au centre, risquent d'être très déprimants. Luc 22, regardons un peu les adieux de Jésus avant de monter au ciel, avant de vivre même sa passion. Luc 22, verset 16. J'y arrive. Donc, il a tout préparé. J'ai vivement mangé cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et tout de suite après, verset 18, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. En d'autres termes, comment aujourd'hui nous vivons ce dimanche en se disant, devant nous, il va y avoir une grande chose, il va y avoir l'établissement du royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 26, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est la grande chose qu'Ésaïe annonce, c'est la grande course que Paul est en train de vivre, et ceci pour nous, pour que nous ayons la même attitude dans ce moment présent. Ne pas oublier que l'histoire du monde, que notre histoire personnelle, elle est tout entière portée par Dieu. Je sais que ça pose problème, en particulièrement sur l'histoire du monde, les choses qui se passent. On se dit, mais j'ai posé la question à un frère, je me souviens, il y a quelques mois, je dis, alors cette histoire du monde, comment peut-on la comprendre dans le plan de Dieu? Il m'a regardé, il m'a dit, je crois que ça nous échappe. Pour être franc, on ne comprend pas grand-chose. Mais est-ce qu'on comprend ces paroles de Jésus? Je boirai de nouveau avec vous, je célébrerai un repas avec vous de nouveau quand le royaume sera là. Est-ce que votre présent est apaisé ou est-ce que votre présent est mangé par le passé? Est-ce que votre présent est apaisé ou est-ce qu'il est entièrement projeté vers un avenir dont vous ne savez rien et surtout dont vous ne maîtrisez rien? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez être tranquillement en train d'exercer votre espérance chrétienne, votre foi dans ces paroles de Jésus-Christ? C'est le sens de ces deux textes d'Ésaïe et de Paul. Il faut vous arrêter, si tant est que Vous étiez mal orienté. Il faut vous arrêter de regarder au passé d'une manière qui ne soit pas celle que Dieu souhaite voir dans vos cœurs. Il ne faut pas vous tourner vers l'avenir dans un autre sens que celui que Dieu a dessiné, déclaré dans sa parole. Sinon, vous vous assécherez. Vous serez dans ces déserts, vous serez dans ces courses qui n'ont aucun sens. Et pour nous, Dieu veut nous enraciner dans ce moment présent. Ce moment-là, c'est un moment que Dieu a préparé, que Dieu vous a donné de vivre. Ah oui, ce matin, j'ai vécu un moment où Dieu était là, aux commandes de l'histoire du monde. Ou bien vous êtes en train de penser, vous m'écoutez, mais en même temps, vous vous dites, mais la pisse à la dière que j'ai mise, je l'ai sortie de... Est-ce que je l'ai pris pour le repas fraternel ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Non, ok. Si la pisse à la dière est restée chez vous, ce n'est pas grave. Par contre, votre cœur doit rester reposé dans ce Dieu qui conduit l'histoire et qui l'a solidement ancré dans l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà ce à quoi je vous invite ce matin, vous et moi, parce que c'est tous les jours qu'il faut se remettre entre ses mains. Voilà, nous allons méditer un petit peu. Il y a un chant qui va venir. Après le chant, je vais rappeler l'envoi et la parole de grâce de Dieu, mais on va doucement se diriger vers le chant qui est prévu pour clore ce moment de culte.